Les premières rencontres internationales de la web radio scolaire au congrès de la MLF à Deauville. L'école française, une pédagogie laïque pour un monde interculturel.
Bonjour, on se retrouve sur la web radio du congrès de la mission laïque française à Deauville pour une nouvelle émission. Un congrès qui a pour thème cette année une pédagogie laïque pour un monde interculturel. Nous recevons dans cette émission Derrick Gay, consultant en diversité et professeur à l'Université de Pennsylvanie, Moulam Soufi de l'association Okeros.life du canton de Genève, Najla Haouli, directrice adjointe du lycée franco-libanais Alphonse de Lamartine de Tripoli, et Roland Biache, délégué général de Solidarité Laïque. Nous irons aussi en Espagne avec Luis Peralta, qui nous parlera de la web radio de son établissement, le lycée Molière de Saragosse.
Les premières rencontres internationales de la web radio scolaire au congrès de la MLF à Deauville.
L'école française, une pédagogie laïque pour un monde interculturel.
Première invitée de cette émission de la web radio du congrès de la mission laïque française OSUI, Moulam Soufi de l'association Okeros.life du canton de Genève. Cette association a développé une application qui fait la promotion de l'entraide et de la valorisation des compétences. Vous êtes interviewé par Colline Chauffret du lycée Marcel Gambier de Lisieux et Robin Kilbertus du lycée Jean Charcot à El Jadida au Maroc.
Bonjour Moulam Soufi, merci d'avoir accepté notre interview. Vous intervenez sur le thème de la coopération entre élèves avec votre application. Pouvez-vous nous parler de votre application ?
Oui, bonjour. Merci déjà pour l'interview, ça fait plaisir. Donc, comme expliqué, on promouvoit l'entraide entre les jeunes. Et donc, pour faire ça, on a développé une application mobile qui va valoriser les compétences des jeunes. En fait, l'application se sépare en deux parties. Une première partie, des éléments où on peut retrouver la valorisation à travers des OTOP, qui sont des compétences, des savoir-faire ou des savoir-être. Comme par exemple, quelqu'un de joyeux peut très bien obtenir une vignette, un OTOP, qui peut être validé par des amis. Et donc, on peut retrouver une reconnaissance. Et dans l'autre partie de l'application, on va retrouver les coups de pouce, qui sont en fait un moyen de justement rechercher les ressources et créer l'entraide. Et donc, en fait, en combinant ces deux éléments, on va pouvoir en fait chercher des compétences ou des choses ou des engagements qui permettent de les intégrer à des situations. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple d'une équipe pour un match de foot entre jeunes amateurs et il manque un joueur. On peut permettre de retrouver un joueur en retrouvant cet OTOP sur son profil et l'intégrer à l'activité. Et donc ça peut être par exemple un moyen d'agrandir un groupe d'amis, de créer des nouvelles relations et de participer à des choses auxquelles on n'est pas forcément invité chaque jour. Donc ça devient un réseau social, un vrai réseau social qui permet aussi de sortir aussi. Et comme l'a défini en fait un des jeunes à qui on a présenté l'application, il nous a dit c'est plus forcément que du partage de contenu et de la promotion de choses en ligne, et puis ça devient vraiment de la participation, et on peut sortir, on peut participer à des choses réelles et concrètes. Et ça peut partir de sujets simples comme un match de foot, comme de sujets plus sérieux, comme un engagement, par exemple pour de l'écologie, pour du développement durable ou pour d'autres sujets plus importants.
Quand cette application a-t-elle été créée ?
Alors, l'application a commencé à être développée depuis maintenant un an. Elle est sortie en version stable, en bêta, il y a environ un mois. Et donc voilà, elle est en train de progresser depuis sa sortie stable.
Comment vous est-elle venue à l'idée ?
Alors l'idée est venue de notre présidente de l'association, Mathilde Chevet, qui elle, après une grande carrière dans le marketing, a décidé de changer et de pouvoir vraiment accorder du temps à la jeunesse et leur permettre d'avoir des outils pour justement avoir les moyens justement de concrétiser des choses un peu plus sérieuses en fait. Et donc l'association a une idée de faire de la prévention de la mise en danger des jeunes. Et donc derrière, elle s'est dit, pourquoi pas même leur permettre de promouvoir l'entraide. Et donc l'application est née de ces idées-là. Voilà.
Est-ce qu'elle était difficile à développer ?
Alors oui, beaucoup de choses sur le parcours. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, surtout que vu que c'est une association, il y a un aspect sérieux par rapport à la protection de l'enfance et les données personnelles, la vie privée, etc. Donc il y a des choses à mettre en place et il y a beaucoup de travail à faire en amont.
Oui. Est-ce que l'application est payante ?
L'application est totalement gratuite et donc c'est un avantage.
Qu'est-ce que cette application apporte de plus par rapport à ce qui existe déjà ?
Alors comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'elle apporte vraiment, c'est les ressources. Ce qui se passe, c'est que ça devient du réseautage entre jeunes. Comme on sait, on a des sites, des réseaux sociaux qui permettent à des professionnels d'avoir accès à des contacts, de valoriser certaines compétences professionnelles. Chez les jeunes, on permet de valoriser également aussi des savoir-être et des savoir-faire qui sont propres à chacun et qui peuvent être identifiables par d'autres jeunes, par des amis. Donc quelqu'un sait reconnaître chez un ami s'il est plutôt joyeux, s'il est plutôt gentil, alors que soi-même, on n'est pas capable forcément de le retrouver. Et donc de cette manière-là, on peut permettre de créer, de générer le bien-être social, en fait, et de retrouver chez chaque jeune des compétences et des choses qui peuvent lui permettre d'évoluer et de grandir dans une société plus qui s'entraide, voilà, qui s'entraide plus.
Y a-t-il déjà beaucoup de personnes qui utilisent votre application ?
Alors on a plusieurs centaines d'inscriptions, donc depuis le mois d'ouverture stable, et on progresse petit à petit. Et on va travailler avec les influenceurs, potentiellement des youtubeurs si possible, et voilà, des personnes capables de partager cette image.
Merci Moulam Soufi. Nous vous rappelons que l'application Autop est disponible au téléchargement depuis maintenant un mois.
Merci Colline du lycée Marcel Gambier et Robin du lycée Jean Charcot au Maroc.
Le lycée Marcel Gambier participe aux premières rencontres internationales de la web radio scolaire de la mission laïque française.
Donc avec nous dans cette émission, un élève du lycée Molière de Saragosse en Espagne. Bonjour Louis. Comment vous y prenez-vous pour animer votre web radio à Saragosse ?
Bonjour Amandine. Je vais commencer par l'organisation des différentes séances. Dans un premier temps, souligner le fait que ce projet implique environ une dizaine de personnes par émission, ainsi que de nombreuses heures de travail. Pour planifier l'émission, on fait une première réunion dans laquelle on propose des thèmes, des éventuels invités à interviewer, et on partage les différents rôles. On fait ensuite quelques séances pour construire les dialogues, ainsi qu'organiser l'émission. Finalement, on consacre une heure à enregistrer l'émission, puis à la mettre sur la page web du lycée. Le projet a évolué progressivement depuis l'année dernière, où on a lancé la web radio. La première émission était volontaire, mais peu à peu, nous avons essayé de faire arriver la radio à tous les élèves de collège et lycée. Et d'ailleurs, elle a été inclue dans l'emploi du temps des 5e. La web radio reste volontaire pour les élèves du lycée, puisque ceux-ci peuvent assister les vendredis de 3 à 5 pour réaliser des émissions, vu qu'ils n'ont pas cours. Qu'est-ce que pour moi la radio ? Donc personnellement, la web radio m'a appris à mieux collaborer avec mes camarades, à savoir accepter des différents points de vue, mais surtout, elle m'a donné la chance de pouvoir assister à ce congrès.
Merci Louis.
Vous êtes toujours avec nous au premier rencontre international de la web radio scolaire. C'est le collège Marguerite Yourcenar de Reus, réseau MLF, qui vous parle.
Donc deuxième invité de cette émission, Derrick Gay, donc consultant en diversité, professeur à l'Université de Pennsylvanie. Vous êtes interviewé par Jeanne Oethul de l'École internationale de New York et Maximilian Schneider du lycée français de Stavanger en Norvège.
Bonjour.
Bonjour.
Derrick Gay, vous êtes présent au congrès pour nous parler de la diversité des établissements scolaires aux États-Unis.
Pouvez-vous nous expliquer de quoi consiste votre métier ?
Mon métier, ça consiste, je travaille avec des écoles aux États-Unis pour promouvoir l'empathie et des compétences culturelles. En attendant qu'on vit dans un monde avec globalisation et des différences, on a beaucoup de problèmes sociaux. Et je crois qu'avec l'éducation dans les écoles, si on commence à cultiver ces compétences très tôt, on peut changer le monde.
Alors, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de faire ce métier ? Qu'est-ce qui vous a poussé à ce métier ?
Oui, c'est une bonne question. J'ai étudié au conservatoire, j'ai étudié le chant. Alors, je voulais être chanteur, un baryton à l'opéra, mais aussi avec l'art, je voulais changer le monde. Et aussi, je voulais vivre bien. C'est difficile aux États-Unis d'être chanteur d'opéra et vivre bien. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire si ce n'est pas le chant pour changer le monde. Et c'était vraiment le métier que j'ai choisi. Alors, j'ai commencé comme prof de la littérature espagnole. Et de là, je me suis mis dans le contexte de diversité, dans une école. Et après, je voulais être directeur d'une école. Mais aussi, je ne voulais pas changer... changer le monde avec 500 étudiants, mais avec le monde entier. Alors maintenant, c'est ce que je fais, avec des écoles et des autres organisations aux États-Unis et dans le monde entier.
Vous avez mentionné dans votre intervention la différence entre égalité, équité et justice. Selon vous, est-ce que des mesures particulières pourraient représenter cette idée de justice ?
Oui, c'est une bonne question. Alors l'égalité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est donner tout le monde la même chose sans penser à leurs besoins. Et si on reconnaît qu'on a maintenant le monde et on n'est pas tous égaux, alors les gens ont besoin de choses différentes pour avoir vraiment la justice. La justice, c'est n'importe quel individu, ça n'importe pas la couleur de peau, où vous habitez, votre religion, que vous pouvez réussir dans la vie avec ce que vous voulez faire, sans des barrières imposées par l'identité.
Est-ce qu'il y a un message que vous essayez de transmettre aux élèves qu'ils doivent tous garder ?
Oui, le message serait que, numéro un, il faut toujours penser que vous pouvez réaliser n'importe quoi dans la vie. Il y a toujours des moyens, des gens qui sont là pour vous aider. Soit vos parents, vos professeurs, oui.
Dans votre discours, vous avez parlé... que dans les écoles, les différences sont souvent cachées et c'est pas parlé. Est-ce que vous pensez que les différences culturelles ou juste les différences aident à apprendre dans les classes et comment le mettre en place?
Oui, ça aide à apprendre si on reconnaît les différences. Je pense, par exemple, dans une école où j'étais, quand j'étais professeur de la littérature espagnole, on avait... c'est une école des filles, des gamines des quartiers différents de New York. On avait des gamines des pays différents. Et quand on analysait la littérature, on utilisait ces perspectives différentes et chacune apprenait d'une perspective différente. On a beaucoup de recherches qui disent aussi qu'avoir un groupe homogène, si tout le monde pense de la même manière, ça favorise des stéréotypes. Et dans un monde où on est tous différents l'un de l'autre, c'est vraiment un avantage de pouvoir s'associer avec des gens différents et de le comprendre aussi.
Je vous remercie, Derek Gay, pour d'être venu et pour votre présentation sur la diversité dans les établissements scolaires aux États-Unis.
Merci.
Merci. Et merci, Jane, de l'École internationale de New York et Maximilien, du lycée français de Stavanger en Norvège.
تشارك ثانوية جان شاركوا بمدينة الجديدة في اللقاءات لراديو الانترنت للبعثة العلمانية الفرنسية.
Donc troisième invitée de cette émission, Najla Haouli, donc directrice adjointe du lycée franco-libanais Alphonse de Lamartine de Tripoli. Vous êtes interviewée par Lynn Daher du lycée Alphonse de Lamartine de Tripoli et Camille du lycée Molière de Saragosse.
Bonjour.
Bonjour Madame Najla.
Bonjour.
Vous avez été prof de français, CPE et directrice adjointe actuellement. Qu'est-ce que ce parcours a apporté à votre fonction actuelle ?
Ah, il a tout apporté, il a construit ce parcours. Parce que j'ai découvert dans le monde de l'enseignement l'importance et la puissance de ce que nous sommes en train de faire auprès des élèves. Tu sais, Lynn, le fait d'avoir ce pouvoir de transformation de l'esprit des jeunes, c'est vraiment un pouvoir absolu. C'est un pouvoir très important et qu'il faut maîtriser et manipuler avec beaucoup d'égard et beaucoup de bienveillance. Ensuite, le fait d'être CPE, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un élève en dehors du temps de classe. Comment il vit dans un établissement scolaire ? Quel est l'impact de ce climat scolaire sur sa vie d'étudiant et de comprendre vraiment tout l'aspect humain d'un élève plutôt que l'aspect scolaire d'un élève, parce que souvent les professeurs pensent qu'on a devant soi un élève et donc c'est autre chose qu'un individu à l'extérieur de la classe. Et là, ça m'a permis de connaître les élèves, de connaître leurs problèmes, de voir quel type de conflits ils gèrent et comment ils vivent au quotidien, quelles sont leurs frayeurs, quelles sont leurs angoisses, quelles sont vraiment leurs espérances dans la vie et quel est notre positionnement, nous, adultes, dans la construction de leur devenir. Et puis maintenant, directrice libanaise, c'est différent. C'est différent de cette posture d'enseignant et de cette posture de CPE, mais en même temps, c'est devenu pour moi le couronnement de ce positionnement dans un lycée franco-libanais. Parce que quand on est directrice libanaise, on est comme une personne qui est sur le seuil de la maison. C'est celle qui accueille les nouveaux qui arrivent, tous nos professeurs, les proviseurs, les équipes qui arrivent dans un contexte qui leur est complètement étranger, mais en même temps qui doit aussi aller vers eux pour pouvoir vraiment comprendre et essayer de leur expliquer c'est quoi vraiment un établissement franco-libanais et biculturel ou pluriculturel dans un contexte comme celui où je suis à Tripoli.
Madame Haouli, on sait que vous avez aussi préparé un diplôme de médiateur professionnel. Pourquoi avez-vous voulu mettre en place le principe de la médiation au lycée ?
Parce que la médiation, pour moi, et je pense, c'est le meilleur moyen de se connaître pour pouvoir aller vers les autres. Et j'ai remarqué, dans un contexte aussi multiculturel que le lycée, avec autant de diversité du lycée de Tripoli, que souvent, on est dans l'incompréhension. Et quand on est dans l'incompréhension, on ne peut pas aller vers l'autre parce qu'on a peur. Et que ça développe un sentiment de peur chez les gens. La médiation m'a permis de comprendre que souvent les élèves sont démunis face à leurs conflits. Ils ne savent pas gérer le conflit parce que c'est un apprentissage. Ce n'est pas du tout quelque chose d'inné, mais c'est un apprentissage. Donc l'expérience qu'on a tentée dans l'établissement avec la médiation entre pairs, on a formé les élèves donc à la gestion des conflits. Et après cette formation à la gestion des conflits, on a identifié donc quelques personnes qui sont en mesure vraiment de jouer ce rôle de médiateur, parce que dans le contexte d'un établissement scolaire, les élèves, il faut leur apprendre à gérer leurs conflits et c'est à eux de trouver les solutions. Et c'est comme ça qu'on n'est pas dans l'autorité et l'exercice de l'autorité. Ça permet de mieux intégrer le règlement intérieur comme outil vraiment qui gère la vie et comme de l'établissement et comme vraiment un mode de fonctionnement qu'on partage tous et non pas qui est imposé.
Alors, est-ce que cette pratique-là est propre aux établissements scolaires ?
Non. La médiation, elle se développe énormément à l'extérieur. Je ne vous cache pas que, par exemple, on travaille même au niveau des forces de sécurité intérieure, des policiers au Liban, à l'école militaire. On commence à donner même des cours de médiation dans ce domaine-là parce que nous émanons d'une culture de guerre au Liban. Nous émanons de l'exercice d'une violence, du pouvoir de la violence, des armes, etc. Et donc, on remarque que ça soit dans les écoles, que ça soit à l'extérieur, et notamment dans les institutions, que l'exercice d'un pouvoir, l'exercice de l'autorité, ne peut passer que par la violence. C'est ce qui est comme stéréotype dans l'esprit des gens. Eh bien, c'est tout à fait le contraire. Grâce à des techniques, à une écoute active, à une reformulation, parce que c'est un apprentissage de soi et de l'autre, on arrive vraiment à développer un autre mode de gestion des conflits et de rapprochement entre la population. C'est ça ce qui fait vraiment l'intérêt de la médiation dans des organismes pareils, et notamment dans les écoles, parce que c'est un apprentissage.
Vous êtes venue au congrès en tant qu'intervenante. Quel a été le sujet de votre intervention ?
Eh bien, moi, je suis intervenue vraiment sur l'interculturalité. Est-ce qu'on est dans un mode de gestion du multiculturel, ou est-ce que vraiment on développe une interculturalité dans nos pratiques quotidiennes, dans nos établissements scolaires ? Et sur ce point-là, moi, je pense vraiment que c'est un trajet, l'interculturalité. C'est vraiment une voie qu'on doit emprunter. Elle est jalonnée d'obstacles. Elle est jalonnée de diversité qui, dans le contexte où on vit au Liban, pourrait vraiment être une problématique très difficile à contourner en l'absence d'un État citoyen. On n'a pas ça au Liban. Les jeunes générations libanaises ne vivent pas très bien leur citoyenneté parce que ce n'est pas un construit étatique. Mais par le biais de l'interculturalité, on a réussi à développer cette communication entre les différentes communautés de notre établissement, une communication construite sur une réciprocité, sur une interdépendance entre les gens, et pas du tout en tant que juxtaposition de différentes communautés qui vont se tolèrent, dans le sens acceptent de vivre l'une à côté de l'autre, mais plutôt s'enrichissent par le biais d'un dialogue culturel différent, puisque on est en grande diversité au Liban, qu'elle soit géographique, qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit même confessionnelle.
D'accord, ben merci Madame Haouli, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes la directrice adjointe libanaise du lycée d'Alphonse de Lamartine de Tripoli et médiatrice professionnelle, et que vous défendez les intérêts interculturels. À bientôt.
À bientôt. Merci.
Merci Linda R aussi du lycée Alphonse de Lamartine de Tripoli et Camille du lycée Molière de Saragosse.
Le lycée français de Stavanger participe aux premières rencontres internationales de la web radio scolaire de la mission laïque française.
Donc, quatrième et dernière invitée de cette émission, Roland Biache, délégué général de solidarité laïque. Donc, vous êtes interviewé par Raphaël El Hague du lycée Alphonse de Lamartine de Tripoli et Valeria Marceau du lycée Marguerite Yourcenar à Rus, Espagne.
Merci. Nous nous trouvons ici à l'occasion du congrès MLF OSUI et nous recevons Roland Biache, délégué général de l'association Solidarité Laïque. Bonjour Roland Biache.
Bonjour.
Le court-métrage que vous avez réalisé dénonce les inégalités au niveau de l'enseignement au Liban et au Mali. Pourquoi avez-vous choisi ces deux pays et non d'autres pays comme la Syrie ou l'Inde ?
Tout simplement parce que nous intervenons dans ces deux pays depuis plusieurs années et qu'il nous a paru important de montrer aussi une activité dans la durée, puisque lutter contre les inégalités et développer l'éducation, ça prend du temps. Et on voulait montrer aussi des parcours de vie de jeunes élèves, aussi bien libanais que maliens.
Dans le film, vous nous parlez de Mawa, une jeune fille du Mali qui vit dans des conditions difficiles. Ses parents sont malades et elle les accompagne tous les jours à la ville pour mendier, puis part à l'école. Que voulez-vous nous montrer dans cette scène ? Les difficultés d'accès à l'éducation, exposer la pauvreté au Mali ou bien autre chose ?
C'est déjà pas mal, un peu tout à la fois, puisqu'on voit qu'une jeune fille de 14 ans doit à la fois s'occuper de ses parents malades. Elle a une extrême envie d'aller à l'école parce qu'elle veut devenir infirmière, comme vous l'avez vu dans le film. Et ça montre que dans certains pays, avoir accès à l'éducation est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que nous avons voulu valoriser cette expérience de vie de cette jeune fille.
Vous représentez l'association Solidarité Laïque. Vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît ?
Très rapidement, c'est une association de solidarité ou, comme on le dit parfois, une association humanitaire. Donc nous menons des actions dans une vingtaine de pays dans le monde, principalement sur les questions d'éducation.
Et quelle est l'origine de cette association ?
Elle a été créée par des enseignants, tout simplement, il y a 60 ans, et parce qu'ils avaient envie, justement, aussi de faire des choses en plus et en dehors de la classe.
Dans l'association Solidarité laïque, nous pouvons remarquer le mot laïque. Selon vous, qu'apporte la laïcité aux enfants ?
La laïcité aux enfants, oula, grande question. Ça leur apporte le fait déjà de pouvoir travailler ensemble, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur conviction, quelles que soient les convictions de leurs parents. La laïcité protège la différente conviction et non pas les opprime, comme on le dit trop souvent.
Merci Roland Biache. Nous rappelons que vous êtes le délégué général de l'association Solidarité laïque et que vous participez demain, lundi 16, à un atelier.
Merci à vous.
Merci Raphaël du lycée Alphonse de Lamartine de Tripoli et Valéria du lycée Marguerite Yourcenar à Russe en Espagne.
Laïcité,
ça rime avec respect,
liberté,
ouverture à l'autre
et interculturalité.
Mon école est française.
Mon école est laïque.
On y sème à tout vent.
Dialogue et tolérance.
On y échange et on partage sans compter.
À Deauville, on se rencontre.
On collabore, on crée.
Au congrès de la MLF.
Pour la radio scolaire.
Merci à nos invités d'Éric Gay, hein, consultant en diversité. Moulam Soufi, membre de l'association Okaidos.life. Nashla Houli, directrice adjointe du lycée franco-libanais, et Roland Biache, délégué général de Solidarité laïque. Merci à Jane, Maximilian, Colin et Robin, Lynn et Camille, Raphaël et Valéria qui ont réalisé les interviews, et à Louis pour nous avoir parlé de la web radio du lycée Molière de Saragosse. Nous nous retrouverons à 15h pour une nouvelle émission de la web radio du congrès de la mission laïque à Deauville. A tout à l'heure.
Première rencontre internationale de la web radio scolaire au congrès de la MLF à Deauville.
L'école française, une pédagogie laïque pour un monde interculturel.